Comprie-je, parlons accompagnement en Île-de-France. Bonjour à tous et à toutes. On est vraiment ravis de vous accueillir cet après-midi pour une heure de rencontre, d'échange, de partage dans le cadre donc de la web radio Parlons Prige, Parlons Accompagnement. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de pouvoir renouer avec cet outil parce que la web radio, c'est un outil qui donne la parole et c'est ce qui nous intéresse, nous les CMA, donc les CMA Île-de-France qui sont à l'initiative de cette émission. On en avait réalisé 3 pendant la période de confinement. Celle-ci est une nouvelle. Elle a une particularité, c'est qu'en fait, pendant une heure, on va pouvoir partager le vécu avec à la fois des référents de parcours, mais aussi des jeunes à qui on va donner la parole, et ainsi que une maman d'un jeune qui est accompagné dans le cadre du Prige et qui avait envie aussi, elle, d'apporter son témoignage. Donc, pour commencer, on se disait que c'était important parce que finalement, Prige, ça veut dire Plan Régional Insertion Jeunesse. Mais peut-être que pour certains et certaines, vous ne connaissez pas forcément l'historique de ce plan et de cette démarche qui se veut intégrée. Et on se disait finalement que c'était tout à fait pertinent de pouvoir donner la parole à Mathieu Piton, donc, qui est le chef de la mission ville à la préfecture de région, qui est à l'initiative donc, du plan régional insertion jeunesse, pour qu'il puisse, dans un premier temps, donc, resituer un peu ce qu'est le Prige et puis aussi son évolution depuis ces 3 dernières années. Voilà. Et ben, écoutez, on se retrouve juste après.
Le plan régional pour l'insertion de la jeunesse des quartiers prioritaires, le Prige, qui a été initié en Île-de-France par la préfecture de région en avril 2018, vise à l'insertion des jeunes de plus de 16 ans sans solution. Ce plan n'est pas un dispositif de plus, mais correspond plutôt à une méthode volontariste et fédératrice basée sur des logiques d'aller vers les jeunes et de faire avec eux. Depuis son lancement, le Prige a fait ses preuves. Il a permis d'accompagner près de 15 000 jeunes, dont plus de 6 000 ont bénéficié d'une sortie positive en emploi ou en formation qualifiante. Les 82 groupes opérationnels qui pilotent ce plan au niveau local permettent de repérer les décrocheurs, les jeunes sans solution. Et les 208 référents de parcours leur proposent des accompagnements personnalisés. Le rôle des référents de parcours est essentiel dans le déploiement du Prige. Leur objectif est de nouer le contact avec les jeunes, de susciter leur adhésion, de les accompagner dans la durée de manière adaptée afin de les placer en formation et en emploi. Ils ont principalement des missions de repérage, de mobilisation et d'orientation. Ils ont différents profils de conseillers, d'éducateurs, de médiateurs. Ces postes sont financés par l'État. Le déploiement du Prige a supposé d'accompagner les différents acteurs mobilisés, en particulier les référents de parcours, et de se doter d'outils visant à favoriser les échanges et à partager les bonnes pratiques. Outre le site internet du Prige, www.prige.fr, qui constitue une ressource essentielle, nous avons organisé une douzaine de formations à destination des référents de parcours et le CMA propose des groupes d'analyse de pratique. Cette animation nécessaire des acteurs du Prige sera poursuivie en 2023.
Bien, donc merci beaucoup à Mathieu Piton pour ces éléments en fait de contexte qui réexpliquent la dynamique du Prige, son rayonnement en Île-de-France. Et comme il le disait, donc les CMA Île-de-France donc participent à l'animation de groupes d'analyse de pratique. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a effectivement travaillé, construit, monté cette émission. Je vais maintenant passer la parole à Warda. Donc Warda qui est donc chargée pendant la durée de cette émission animer donc 2 tables rondes en présence donc de nos invités qui sont, comme je l'ai dit, des référents qu'elle va présenter, mais aussi donc des jeunes qui sont accompagnés. Donc Warda anime depuis 3 ans avec moi-même. Donc moi, je suis Elisabeth Médina, hein, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Ça, c'est les aléas du direct. Donc j'en profite pour le dire maintenant. Donc je suis donc directrice des CMA Île-de-France et avec Warda, donc on anime depuis maintenant 3 ans donc les groupes d'analyse de pratique. On a effectivement ensemble participé à des espaces communs à l'échelle régionale. Et dans ce cadre-là, on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai enjeu de pouvoir proposer des espaces de réflexion aux référents mais aussi d'imaginer d'autres espaces comme celui de la web radio où on pouvait envisager donc de donner la parole à des jeunes. Et je peux vous dire qu'ils ont énormément de choses à dire parce qu'on a échangé tout à l'heure ensemble avant le démarrage de l'émission. Et c'était très passionnant les échanges qu'on a pu avoir avec eux. Donc on va pouvoir, mais je ne vous en dis pas plus, allez. Warda va vous présenter, va vous les présenter, vous allez pouvoir les écouter.
Merci Elisabeth. Eh bien justement, aujourd'hui, les jeunes sans solution auxquels faisait référence M. Piton, et bien aujourd'hui, nous avons accueilli et ils sont donc avec nous. Ils sont au nombre de 3 et donc nous allons leur passer la parole. Alors le premier entretien, c'est avec Sadra Mili, qui est référente de Parcours Prige depuis, je crois, avril 2021. Elle est à la mission intercommunale pour l'insertion des jeunes et elle est dans une mission qui effectivement regroupe 4 communes, Épinay-sur-Seine, Lille-Saint-Denis, Ville-Tanneuse et Saint-Ouen. Et elle accompagne les jeunes de la ville de Saint-Ouen, c'est sa mission. Elle accompagne aujourd'hui Deluxe, excusez-moi j'ai une voix un peu enrouée, Kuzoma, qui est un jeune accompagné par Sadra depuis avril 2021. Voilà, donc depuis 2022. Voilà, donc ce qu'on aimerait aujourd'hui justement savoir, c'est à la fois du côté de Sadra, mais du côté de Deluxe, et je m'adresse d'abord à Sadra. Ben, en fait, Sadra, vous accompagnez ce jeune depuis maintenant quasiment, enfin quelques mois.
9 mois.
Voilà, comment est-il arrivé à vous ?
Alors, comment est arrivé Deluxe dans mes bureaux, en fait, chez moi ? En fait, il est passé par le bureau d'information jeunesse de Saint-Ouen. Il m'a été orienté par le bureau d'info jeunesse de Saint-Ouen. Alors, il faut savoir déjà, pour contextualiser aussi, l'un des gros, les gros travaux du référent de Parcours Prige, c'est aussi le maillage avec ses partenaires. On vit à travers ces partenaires, en fait. Hein. Non seulement on nous oriente des jeunes, mais on travaille énormément ensemble. Donc, Deluxe est arrivé par cette porte-là.
Deluxe, quand tu es arrivé pour la première fois, justement, auprès de Sadra, quelle était ta situation ?
Je n'étais pas, du coup, dans de bonnes situations d'abord. Et le but, c'était, quand j'ai reçu mes documents comme titre de séjour, le but, c'était pour chercher quoi, une formation. Et j'étais orienté par Sadra Mili. C'était ça.
Ta situation exactement, c'était quoi à ce moment-là ? Tu étais jeune, sans solution, en difficulté. C'était quoi ta difficulté à ce moment-là ?
J'étais en difficulté des logements et financièrement aussi.
Faut savoir que Deluxe est arrivé, je peux me permettre, Deluxe, de Kinshasa en septembre 2021. Arrivé en France, tout ne s'est pas passé comme prévu au niveau de l'hébergement et de l'accueil qu'il aurait dû avoir. Donc, il s'est vite retrouvé en difficulté de logement. Il a un peu erré, malheureusement. Et puis, il s'est retrouvé un peu, beaucoup même isolé. Il était seul, isolé. Et il a su frapper à la porte du bis dans un premier temps. Et puis après, tout s'est un peu ouvert, un peu comme ça.
Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quelles sont les étapes, Sadra, de cet accompagnement-là ? Donc, vous dites qu'effectivement...
Les étapes, c'est surtout qu'on a travaillé d'emblée avec différents partenaires. Donc, il y a eu le BIJ, en l'occurrence, le bureau d'info jeunesse qui travaille par définition pour la mairie de Saint-Ouen, qui a pu œuvrer sur tout ce qui était logement, parce qu'ils ont des places en ALJT. De la ALJT à Saint-Ouen, on a des foyers jeunes travailleurs. Et ils ont fortement appuyé sa demande, parce que Deluxe, au fur et à mesure du parcours, il s'est quand même montré très engagé. Une fois que la confiance a vraiment été établie, il a été vraiment investi aussi. On a fait appel aussi, on a travaillé avec les apprentis d'Auteuil et Jeunesse Feu Vert. Jeunesse Feu Vert qui a eu la charge de beaucoup de tout ce qui est administratif, surtout en termes au niveau de l'ASE, parce que l'important, c'était aussi de décrocher un contrat jeune majeur pour qu'ils puissent se former en France sans difficulté, avoir tous les documents nécessaires. Et avec les apprentis d'Auteuil et moi-même, on a monté un SAS en fait sur mesure pour nos jeunes, un SAS de remobilisation sur lequel on a positionné Deluxe, qui a pu travailler sur énormément de domaines différents et qui à terme a pu intégrer une formation. Bah, je vais peut-être le laisser un peu.
Alors la parole à Deluxe finalement dans ce que dit Sadra. Voilà, vous avez traversé différentes étapes et comment cela s'est passé? Est-ce que pouvez-vous nous ramener un peu ces étapes?
Bon, au début, c'était très difficile.
Je suis arrivé en France en 2020, au mois de septembre. Je suis parti à Aubiche pour que mettre côté démarche. Ils m'ont orienté vers le service Feu Vert. Là-bas, j'ai fait mes démarches administratives. Dès que j'ai eu mon premier récépissé, je suis retourné vers Aubiche. Et ils m'ont orienté encore vers la mission locale. Ils m'ont présenté chez Madame Sadra. Et par Sadra, m'a intrigué à un SAS pour, en partenariat avec les apprentis d'hôtel pour des remobilisations solides. Et là-bas, j'ai travaillé sur mon projet professionnel, sur mon CV, sur mes postures, les techniques d'entretien. Et du coup, j'ai pu intégré dans une formation d'électricité en alternance qui prend fin au mois d'août 2024. Donc là, je suis en alternance.
Un vrai travail d'équipe. C'est-à-dire que voilà, Deluxe, il savait voilà, qu'il pouvait déjà appeler n'importe quand, n'importe quelle heure et même le week-end. Qui pouvait m'appeler s'il avait un coup de mou, s'il avait juste envie de parler, dire je. Voilà. Et qu'il y avait derrière aussi le fait qu'on puisse travailler avec tous ses partenaires, c'est comme si on créait un gros filet de sécurité. C'est-à-dire que le jeune, il est en permanence entouré, il a toujours quelqu'un vers qui se retourner, et puis la personne va lui apporter une solution sur un thème bien précis. Les apprentis d'Auteuil, les boosters qui sont sur Saint-Ouen ont été d'une aide hyper précieuse. Et puis, c'est même pas une aide en fait, parce qu'on fait tous un peu le même travail, mais à des niveaux différents. Et pareil pour les éducateurs de jeunesse Feu Vert ou encore le Biche de Saint-Ouen. C'est en fait la force du Prige, parce qu'on fait tous partie en fait, hein, du Prige. Hein, tous les membres dont je vous ai parlé là, font partie du Prige. En fait, notre force, c'est ça, en fait, c'est que le jeune ne soit jamais seul. En fait, il a toujours quelqu'un vers qui se tourner. Et voilà, si moi, à un moment, j'ai plus de contact avec lui, je sais que tac, qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir être derrière et le récupérer. Avec Deluxe, ça a été plus simple parce que bon, il s'est montré quand même investi, parce que le truc se fait à deux, hein. C'est pas moi qui arrive et qui lui donne les solutions clés en main. Voilà, c'est un travail qu'on fait à deux, puis en l'occurrence même à plus, hein, pour le coup.
Donc en fait, vous insistez sur à la fois le travail de proximité que vous avez mené et en même temps cette permanence dans l'accompagnement.
C'est ça, il y a une continuité, oui, voilà.
Mais comment se rendre disponible, y compris le week-end?
Eh ben on répond, hein, quand il y a un texto, hein, elle le dit.
Bah, en fait, avec moi, c'est un peu différent. Quoi. C'est pas pour moi pareil avec d'autres jeunes. Parce qu'avec moi, parfois, c'est pas que côté professionnel. Parfois, j'appelle Sandra juste comme ça pour leur parler, c'est tout. Et il y a d'autres éducateurs, comme c'est des Feu Vert et des apprentis d'hôtel. Bon, on a créé un peu des relations, là, tu vois, comme une famille. Ouais, du coup, j'appelle, tant que je rappelle. Ouais, c'est ça.
Vous étiez bien entouré, effectivement, des professionnels de la Fondation Jeunesse Feu Vert, des apprentis d'Auteuil, le Prige. Donc, vous étiez à la fois bien cerné et donc accompagné.
Oui, c'est ça.
Et ça vous a surpris.
Ouais.
Sadra?
Oui, je pense qu'il était. Du coup, il a trouvé son compte parce que pour le coup, c'est vrai que Deluxe est assez pudique en plus. Hein. Ce n'est pas le genre de jeune qui va vouloir s'étaler ou s'ouvrir. Bon, ça a mis du temps. Et puis, quand il a été en confiance, le fait effectivement de pouvoir être joignable, de répondre présent à tous les moments, en fait, je pense que ça l'a mis vraiment en confiance et qu'il a pu un peu. Il s'est senti sécurisé, je pense, en fait. Non? C'est ça ou pas?
Oui, c'est ça. Parce qu'au début, je parlais à personne, en fait. Ouais, j'étais pas vraiment déjà, même si j'ai un problème de venir chez Sadou, quelqu'un, de dire tout ça, j'étais pas vraiment mon truc. Et au fil des temps, comme Sadou m'écoutait tout le temps, je parlais tout le temps, je suis devenu ouvert à venir.
D'accord, vous vous sentez bien finalement.
Oui.
Alors, et aujourd'hui, quel regard Deluxe tu portes un peu sur demain, sur ton avenir? Comment tu prévois les choses?
Bah, pour l'instant, tout est parfait.
C'est-à-dire oui, hein.
Bah, en fait, des bases, vraiment, c'était pas vraiment ce qui était prévu, comme métier, ce que j'ai fait là maintenant. Parce que des bases, je voulais faire les droits. Parce que au pays, là-bas, au Congo, j'étais en terminale, je faisais la pédagogie générale. Mon but, c'était de venir ici chez mon père pour faire terminer mon terminal et aller à l'université. Et quand je suis arrivé, comme j'étais déjà majeur, j'avais 18 ans, on m'a dit d'aller à la CIO pour passer les tests et tout ça, mais je n'ai pas pu parce que j'étais déjà majeur. Et j'étais un peu déçu. Bah, je ne pouvais pas rester comme ça sans rien faire. Et quand j'ai connu Sadra, il m'a guidé à faire d'autres formations de solides là, pour connaître le monde des métiers. J'ai passé des stages. Comme je connaissais aussi un peu déjà à l'électricité, je dis, bah, du coup, ça me plaît aussi, je vais me lancer ça. Et là, au début, c'était juste là-bas pour voir quoi, si ça va marcher ou pas. Et là, ça me plaît. Du coup, je me suis lancé ça, ça va.
Donc, en fait, ça devient un projet qui te plaît bien grâce justement au référent de parcours Prige. Oui. Qui t'a accompagné dans cette démarche.
Oui, bah, parce que sinon, avant, j'étais perdu, je ne savais plus rien faire. Je ne savais plus quoi faire. Et grâce à eux, bah, j'ai vu, bah, là, j'ai fait l'électricité parce qu'ils m'ont bien guidé, c'est ça.
D'accord. Et Sadra, et justement, au-delà de la situation de Luc, justement, les perspectives un peu par rapport aux jeunes que vous accompagnez, comment les choses se dessinent comment les situations évoluent, parce que bon, depuis quasiment maintenant 2 ans, un peu plus.
Un an et demi maintenant. Mmh. Bah alors après, tout dépend aussi des profils des jeunes. Hein. Mais bon, c'est vrai qu'on reste longtemps en contact quand même avec les jeunes. C'est un travail qui est quand même de longue haleine, pour certains beaucoup plus long. Et certains vont rentrer en formation, certains ça va être bon, bah, pas la priorité. Hein. De toute façon, on a peut-être d'autres champs d'action au préalable. Perspective, bon, moi je pourrais pas, je sais pas. Enfin, tous les cas, c'est plutôt positif en fait tout ce qui se passe à des vitesses différentes. Mais en tous les cas, on aboutit souvent à des choses plutôt sympas.
Justement, Monsieur Piton tout à l'heure parlait du nombre de sorties positives, c'était voilà. Comment vous vous situez par rapport à ça? Parce que les accompagnements aboutissent quand même.
Oui, il y en a qui aboutissent, comme je disais, à des formations. Bon, après, même s'ils sont en formation, nous on aime bien quand même les avoir régulièrement, voir comment ça se passe, parce qu'on est, voilà, on n'est pas à l'abri. Bon, là, de Luc, s'il s'épanouit dans sa formation, certains vont se rendre compte que c'était pas trop ça. Donc, il faut quand même, quoi qu'il en soit, la sortie est certes positive dans un premier temps, mais on doit toujours être vigilant et suivre le jeune, quoi qu'il en soit, pour voir s'il ne décroche pas et s'il va jusqu'au bout de sa formation. Ou si on peut l'aider peut-être à rebondir sur autre chose à terme, on ne sait pas.
Et quels sont les axes que vous privilégiez dans l'accompagnement justement de ces jeunes dans le cadre du Prige?
Dans un premier temps, c'est surtout de la remobilisation quand même. Hein. Au départ, déjà, c'est faire venir le jeune à l'heure. Hein. Déjà, c'est une grande étape hein, que le jeune. Quand on finit par avoir un jeune qui vient au rendez-vous à l'heure, on est déjà content, ou qui vient tout court hein, par moment aussi. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec les apprentis d'Auteuil, on a mis ce premier SAS, ça a été un test en fait, hein, solide, c'est Saint-Ouen pour l'insertion durable.
Vous pouvez nous en dire un peu plus
sur alors sur ce SAS, on l'a fait, on l'a fait cette fin juillet, de juin à juillet, juin-juillet en fait, ouais. Avec la PMSMP et une formation d'arbitre pour un peu les initier à tout ce qui est règles. Hein, et c'est des choses, hein. En fait, c'est un SAS qui parcourt plusieurs points. Bon, déjà, il y avait tout ce qui était quand même activité ludique, mais qui avait aussi un but pédagogique. Hein. La formation d'arbitre, elle n'est pas anodine, hein, ou des sports collectifs dans le respect des règles. Mais il y avait aussi tout ce qui était éloquence, les savoir-être en entreprise, les codes, apprendre à créer son LinkedIn aussi.
Les stages.
Les stages et puis la PMSMP, effectivement.
Vous pouvez décliner
APMS, en fait, c'est des stages en entreprise, en fait. Hein. La mission locale est habilitée à fournir des documents autorisant les jeunes à être en immersion en entreprise. Voilà. Donc, avec ce SAS, on a été un peu sur tous les points qu'on estimait importants pour que le jeune, en fait, au fur et à mesure, reprenne confiance en lui et puis il se retrouve aussi dans une situation, en fait, quelque part de formation, sans nommer ça formation, et d'intégrer. En fait, c'est une espèce, un premier pas en fait vers l'insertion, vers l'emploi, parce qu'il y a des règles, parce que voilà.
Donc en fait, on peut considérer que l'accompagnement de Deluxe est plutôt satisfaisant, à la fois pour votre institution, pour le jeune, et pour vous en tant que référente de parcours.
Oui, complètement, c'est une vraie satisfaction.
Mais je vous remercie vivement de cette participation, et merci vraiment de vous être prêtée à cet entretien, parce que et particulièrement de luxe, parce que c'est pas évident d'être face à un micro. Merci beaucoup, et puis en espérant que les choses se passent au mieux pour vous et pour les autres. Merci bien.
Merci.
Je sais de la musique pour l'instant.
Parlons Prige, parlons accompagnement en Île-de-France.
Rebonjour, nous présentons le deuxième entretien
avec Abdelrahim Karim, Yanis et Nicolas et Madame Elkada. Alors, Brahim est référent de parcours, je crois, parmi les tout premiers, me semble-t-il. Ça doit dater, en gros, de décembre, peut-être, 2019. Il est sur la ville de Stain. Et il nous disait que dans les accompagnements, il en est quasiment à 300 accompagnements depuis qu'il a commencé cette mission. Nicolas, qui l'accompagne, 28 ans, aujourd'hui ambulancier, j'en dis pas plus.
Exactement, c'est ça.
Et qui a, dans ce qu'il nous a dit, a signé un CDI. Donc, on parle de sortie positive, mais alors on est véritablement dans une sortie positive. Yanis, qui est aujourd'hui brancardier, qui vient d'avoir aussi son diplôme.
Oui, c'est bien ça.
Et qui est passé justement par la démarche Prige. Et nous avons également vraiment le privilège d'accueillir aussi Madame Belkada, qui est la maman de Yanis, qui voulait aussi partager son témoignage aujourd'hui dans le cadre de cette web radio. Ben, je vous remercie vraiment d'être avec nous cet après-midi, parce que c'est aussi la meilleure façon de parler du Prige, c'est justement de réunir les acteurs, les référents de parcours, bien évidemment, et les personnes donc, qui sont dans cette démarche, pour aussi voir à la fois ce qu'ils en retiennent de cette démarche, comment ils y sont inscrits dans cette démarche, et justement, quelle est aussi la relation qu'ils ont nouée avec le référent de parcours et avec l'institution, bien évidemment, qui porte le Prige. Peut-être que je m'adresse d'abord à Karam, Brahim. Justement, cette mission de référent de parcours, vous qui l'éprouviez maintenant depuis quelques années, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui ?
Bonjour à tous. Qu'est-ce que je peux en dire aujourd'hui ? Ben, moi, effectivement, j'ai commencé dans les débuts du Prige en novembre 2019. Ça a été un nouveau dispositif, pas connu du public ni des partenaires. Donc, dans un premier temps, ben, au début, il a fallu faire connaître ce dispositif. Il a fallu faire du repérage des jeunes. C'était nouveau. On ne savait pas trop comment y aller. Ça avait mis quelques mois avant de réellement commencer, de mettre les choses en place. Je dirais qu'on a eu un début assez difficile, mais aujourd'hui, ça se passe très bien. Et la machine est en route et ça roule très, très, très bien.
Merci. Ben Nicolas, comment êtes-vous arrivé au point de venir aujourd'hui en parler et partager justement cette expérience? Je crois que vous avez 29 ans. Vous habitez aussi
à Stain.
Nous vous écoutons.
Bah, tout d'abord, avec Brahim, c'était plutôt des amis à moi qui m'en ont parlé et qui m'a dit qu'il y avait Brahim qui était présent, qui pouvait nous aider à avoir des projets de réinsertion sur plusieurs sortes de métiers ou des formations. Et c'est comme ça que je me suis dirigé vers Brahim. Ça fait déjà depuis 2-3 ans. Donc c'est comme ça que j'ai connu Brahim. Vraiment. Voilà.
Comment es-tu arrivé vraiment au Prige ? Brahim, vous le connaissez dans le quartier. Mais quelle était votre situation avant de dire bah, « Tiens, je vais taper à la porte ».
Bon, ma situation elle était assez mauvaise quand même, parce que j'étais sans emploi, j'étais seul, vu que je sors d'une situation très compliquée. Et donc, avec Brahim, j'ai pu me réinsérer petit à petit. J'ai eu beaucoup de problèmes, des problèmes de logement, de travail. De toute façon, il est au courant. Voilà. Et grâce à lui, aujourd'hui, j'ai pu m'en sortir avec une formation d'ambulancier qui a duré 6 mois, une formation de DEA, diplôme d'état d'ambulancier, et qui a commencé en janvier 2022 et qui s'est terminée en juin 2022. Et qui est maintenant, j'ai signé mon CDI, ça fait un mois. Et voilà.
Qu'est-ce qui fait que, justement, cette insertion n'a pas opéré auparavant et c'est maintenant qu'elle a opéré? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui a fait que c'est... Parce qu'à 29 ans, pour un jeune, parfois on peut imaginer que la fin de la scolarité, un diplôme en poche, et on pourrait peut-être trouver une formation, un stage, un emploi, comme il y a même un emploi alimentaire.
Hein. Bah, la différence, c'est que avant ça, je m'étais dirigé vers la mission locale, le Pôle emploi, qui se rejetait souvent la balle, qui me faisait du ping-pong malheureusement. Et qui, malheureusement, avec eux, je ne me sentais pas bien écouté, alors qu'avec Brahim, je me sentais en confiance. Et c'était quelqu'un qui me motivait, qui motive toujours d'ailleurs, la preuve, et qui ne lâchait pas ses éléments, vu que je ne suis pas le seul élève qu'il a eu, je ne suis pas le seul représentant. Il y a eu plusieurs personnes qui ont reçu leur formation, malheureusement, qui ne sont pas là. Mais c'est quelqu'un qui ne lâche pas, qui sait vous mettre à l'aise, qui sait redonner motivation lorsqu'on est au plus bas, d'accord, qui sait nous relever, on va dire. C'est un peu comme une sorte de coach, d'accord. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça.
Un coach de vie.
Mais voilà, c'est quelqu'un qui ne lâche pas l'affaire, qui est présent, qui nous appelle, pas que pour la formation, même en dehors de la formation, pour notre vie personnelle, comment ça va, voilà. C'est le relationnel. Surtout le relationnel qui fait que bah, je pense qu'on a pu réussir. Après, le parcours n'est pas encore fini, on est encore là, on est encore présent. Et voilà, on avance, on lâche pas prise.
En fait, donc, c'est un peu le travail de proximité et le lien de confiance qui a fait que, justement, vous avez tenu et que vous voilà aujourd'hui dans une insertion professionnelle qu'on pourrait dire réussie.
Je pense que oui. Je pense que oui, c'est surtout ça qui a fait la différence et qui a fait que moi, Yanis, avons pu réussir notre formation et avons pu travailler. Voilà. Donc je pense que c'est ça la différence.
Yanis, toi, tu en penses quoi ? Qu'est-ce que, justement, dans quel état tu étais quand tu as rencontré la démarche prise portée par Brahim ?
Okay, bah, quand j'ai rencontré Brahim, déjà, j'étais au plus bas. Ça veut dire que j'avais pas d'emploi, ou j'étais vraiment, vraiment sans travail, sans rien. Donc du coup, après, tout le monde m'en a parlé du prix. Je suis parti voir, j'ai vu que c'était Brahim. Et Brahim, il m'a dit, voilà, moi, je vais pas te laisser tomber. Parce qu'il a vu vraiment, j'étais au plus bas. J'avais plus rien envie, je savais même plus quoi faire. Et Brahim, il m'a jamais laissé tomber. Il a toujours été là. Toujours. Même, par exemple, il nous appelait. Je ne devais ni faire des papiers administratifs, je ne devais rien faire, juste pour savoir comment j'y allais, qu'est-ce que je faisais, plein de trucs comme ça.
En fait, quelqu'un qui vous considérait comme personne. Mais c'est dur quand même pour un professionnel d'appeler un jeune de 22, 23 ans régulièrement, alors que ça fait partie un peu d'une À 22 ans, on est un peu autonome quand même.
Ouais, si, je suis autonome. Mais on va dire, on a toujours besoin quand même, parce qu'on est jeune, on a toujours besoin de quelqu'un qui peut nous dire tu vas réussir, tu vas y arriver. Parce que la plupart, quand j'avais des entretiens, ça se voyait que, voilà, c'était pas... Bon, ils s'en foutaient, quoi. Ils disaient, bon, on vous rappelle, on ne nous rappelle jamais, quoi.
Donc, en fait, c'est la question de la considération.
Ouais.
Et puis le fait de croire en vous.
C'est ça, c'est ça.
Et c'est peut-être ça qui vous a manqué, qui ne vous a pas permis justement de concrétiser ce que vous avez envie de faire. Mm. Et à partir de là, donc, vous avez fait une formation qui a été qualifiante. Et comment vous envisagez un peu l'avenir?
Bah pour l'instant, ce que j'envisage, c'est peut-être de signer un CDI. Et après, on verra avec le temps. Mais pour l'instant, je suis très bien dedans. Et franchement, merci Brahim.
D'accord. Merci Brahim. Merci la démarche prise. Qui est aussi une démarche qui permet justement d'aller vers ces jeunes qu'on dit oubliés, qu'on dit invisibles, qu'on dit justement décrochés. Enfin, le mot n'est pas très élégant. Mais justement, ces personnes qui ont des difficultés et qui n'accrochent pas forcément à un ensemble de dispositifs et qui ont besoin peut-être d'un sas un peu particulier, d'une démarche un peu spécifique. Qu'est-ce que vous en pensez, Ibrahim, de ce que vient de témoigner Nicolas et Yanis ? Parce que vous êtes quand même pas mal cité, hein, c'est vous le personnage principal hein, dans cette démarche.
Je pense qu'au début, ils avaient un vrai manque de confiance en eux. Et la preuve en est encore, ils sont là à dire oui, Ibrahim, heureusement, alors que moi, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. Il ne parle pas de la grosse partie du début avant de rentrer dans une formation, un emploi. Il y a une grosse partie accès au droit. Et dans tout ça, moi, à part orienter dans ce qui existe déjà, parce qu'aujourd'hui, en France, on est très, très bien lotis. Comme je leur dis tout le temps, si à chaque problème, il y a une solution. Si tu ne la trouves pas, c'est que tu as mal cherché. On est vraiment super bien servi. Donc voilà, moi, c'était surtout un travail d'orientation. Chaque problème qu'ils m'ont cité, ben, je leur indiquais le chemin. Compte en banque bloqué. Voilà, tu as droit avec la Banque de France. Pas plus que ça, en fait. Le boulot, ils l'ont fait eux-mêmes. Hein. Réellement, ils l'ont fait eux-mêmes. Après, comme je dis, eux-mêmes, ouais, c'est clair.
En fait, vous avez juste été un peu une forme de béquille, à un moment donné, un c'est tuteur.
Ça. C'est ça. C'est ça.
Madame, et vous qui êtes avec nous, madame, justement, vous êtes un peu témoin aussi... de l'évolution de votre fils hein, sur cette situation.
Oui.
Qu'est-ce que vous pouvez...
Moi, ce que je peux dire, c'est qu'il a un peu sauvé mon fils parce qu'il y a eu un moment, comme il disait, il n'était pas bien, il sombrait un petit peu. J'avais peur qu'il fasse des bêtises avec les petits du quartier. Et Brahim, il a été là vraiment pour le remonter, lui faire confiance. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de structure pour les jeunes et on ne leur fait pas assez confiance, en fait. C'est pour ça qu'il il lâche l'affaire vite. Et heureusement qu'il y a des gens comme Brahim, il devrait en avoir plus. Parce que franchement, ça les aide. Mon fils, il allait faire des bêtises s'il n'aurait pas été là. Et puis, comme il dit, il ne le lâchait pas. Il l'appelait quand ça n'allait pas. Parce que bon, moi, je suis une femme qui l'élève toute seule. Lui, c'est un homme. Donc, il avait peut-être besoin de parler plus à un homme, se confier plus à lui. Et puis, voilà, je le remercie pour tout ça. Et voilà, je ne vais plus l'appeler pour le menacer. Parce que bon, voilà, il a aidé mon fils et vraiment, c'est un bon garçon. Puis comme je disais aussi, peut-être le fait qu'il a grandi dans une cité, Brahim, il a vu beaucoup de choses. Il a vu peut-être des amis à lui aussi qui n'ont pas eu le même parcours que lui. Mais vraiment, c'est un mec vraiment qui aide vraiment les jeunes et vraiment, je leur dis d'aller le voir parce qu'il est là vraiment pour les aider, pour essayer de les monter un peu plus haut.
Voilà. Est-ce que justement vous avez essayé de comprendre ce qu'est ce plan régional d'insertion des jeunes ? Est-ce que vous êtes documenté ? Vous vous dites, ben finalement, c'est quand même quelque chose qui a permis à mon fils d'accrocher. Alors bien évidemment, Brahim a été un peu le lien, mais Brahim s'est inscrit dans un dispositif. Mm-hmm. Est-ce que vous avez tenté de comprendre un peu ce que c'est et qu'est-ce que vous en retenez de ce que vous dit Yanis ?
La question est trop dure. En gros, j'ai pas compris.
D'accord. Alors, est-ce que vous savez à peu près ce que c'est que le PRIJ ? Est-ce que vous avez saisi ?
Oui, je suis déjà venue voir. En fait, c'est une structure pour essayer de laisser les jeunes dans la rue, quoi. Pour essayer de les réinsérer par rapport aux études, aux formations, à plein de choses. Et moi, je sais qu'il y a le Yanis d'avant, Brahim, et il y a le Yanis d'après. C'est deux personnes différentes. Vraiment, ça y est, maintenant, il a un travail, il se sent bien, respecté. Enfin, c'est un homme, voilà. Et je suis fière de tout ça, et je suis fière de mon ami, qui est vraiment quelqu'un de bien. Je lui remercie pour tout. D'ailleurs, on va lui faire un bon cadeau pour Noël. Et c'est bien de garder des liens, en fait. Il ne faut pas les oublier, ces gens-là, aussi, parce qu'eux, on parle d'eux et tout, mais... Le soir, ils doivent rentrer, ils doivent être fatigués avec tout ce qu'ils entendent, les difficultés des jeunes. Et grand respect pour ces gens-là. Voilà.
Est-ce que Yanis, par exemple, tu sais c'est qui finance tout ça ? C'est qui mon patron ?
Qui finance tout ça ? La dame du frigo ? Non.
Elles sont là devant toi, Yanis.
Non, c'est pas eux.
Non.
C'est qui ?
Qui finance tout ça ?
C'est qui pilote le frigo ? C'est qui au-dessus ? Qui me paye ?
L'État, je crois. C'est ça ?
Brahim.
Je parle souvent de ça, c'est que on parle de zones de non-droit où l'État n'est pas là, mais
ah si, il faut reconnaître bien sûr, ils sont là bien sûr.
La République, elle est bien présente chez nous. Il y a énormément de choses qui sont chez nous. Et tous les partenaires que vous avez pu croiser, les juristes, les conciliateurs de justice pour Nico, etc., et ben, tout ça, c'est l'État qui finance. Hein.
Ah oui,
l'État qui
sûr.
Est là pour sa jeunesse. Hein. Ça, il faut pas l'oublier.
Puis on est heureux d'être en France, hein, on ne critique pas. On est bien contents qu'ils sont là pour nous, on le reconnaît. Il le sait très bien, Yannis, j'en parle souvent. Et puis après, voilà. Merci pour tout.
Nicolas, vous voulez peut-être réagir justement à ce qui vient d'être dit par Yannis, par sa maman et par Brahim.
Franchement, ils ont tout à fait raison. Donc, à part ça, je n'ai rien d'autre à souligner. Voilà.
Alors, Brahim, tout à l'heure, parlait d'accès au droit, justement. Aujourd'hui, sur l'accès au droit, parce que visiblement, quelques-unes de vos difficultés étaient liées justement à l'accès au droit. En quoi, par exemple, le PRIJ vous a aidé justement à vous réconcilier avec le droit, tout simplement, vos différents droits Allez-y, c'est bon.
Bah, le fait de nous aider dans les démarches, comme par exemple accéder à son compte CAF, aller dans son compte de sécurité sociale, comment ressortir un avis d'imposition, régler des problèmes d'amende pécuniaire, plein de choses comme ça. Le fait de c'est des choses que si on ne connaît pas forcément, on ne peut pas vraiment réussir à savoir comment le faire. D'accord ? Voilà. Et en fait, ils nous responsabilisent, ils nous montrent comment faire les choses, ils nous aident et voilà. Après, comme il a dit, ils nous montrent le chemin et nous, on y va.
D'accord. Donc, maturité, responsabilité, soutien. Yannis, ça vous fait réagir ? Allez-y.
Non, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Nicolas, Brahim, il nous donne des responsabilités surtout. Ça veut dire, par exemple, comme il a dit, les papiers, nous, on n'est pas obligé. Nous, on ne connaît pas. On a vu nos parents faire, mais nous, on ne connaît pas, parce que personne ne nous a appris. Et c'est lui qui nous met sur le fait accompli. Il nous dit comment faire ci, comment faire ça. Après, il nous laisse, et c'est à nous de le faire.
En fait, il fait pression un peu aussi sur vous, de temps à autre, quand même.
Il est obligé.
Parce que, bon, c'est pas toujours... D'accord. Madame, vous voulez ?
Ah non, j'ai dit non, ils ont peur de lui. Mais dans le bon sens, quoi, parce que bon, ils le respectent. C'est un respect, en fait, qu'ils ont établi entre eux. Et donc, c'est tout à fait normal. Il faut qu'ils le respectent, c'est pas non plus leur copain. Il est là aussi pour les aider, tout ça, mais à un moment, il ne faut pas tout prendre à la rigolette. N'est-ce pas, monsieur le référent ?
En fait, c'est aussi comment renouer avec le cadre. C'est vrai que Brahim le dit souvent, justement, dans le cadre des groupes d'analyse de la pratique et de la réflexion sur l'action. C'est bien évidemment des jeunes qui sont en difficulté importante, des difficultés en plus qui peut-être durent plusieurs années. C'est comment les aider à s'en sortir, comment les autonomiser, comment leur permettre justement de se responsabiliser pour à la fois accéder à leurs droits, mais aussi pour remplir leurs responsabilités, bien évidemment, de jeunes, parce que les jeunes ont aussi des responsabilités. Hein, et ça, c'est important, comment conjuguer à la fois l'aide et l'accompagnement des référents de parcours, mais aussi leur engagement. Parce que justement, le prix, c'est aussi ça, c'est permettre à chacun de pouvoir s'engager dans des perspectives, dans un emploi, dans une formation, et puis avoir envie aussi. Hein. Et peut-être le travail justement de proximité, le aller vers, le comment les remettre un peu dans des axes de réflexion, de travail, etc. Ça leur permet une inscription sociale. Parce que finalement, ces jeunes, pour beaucoup, ils n'ont plus d'inscription sociale. Ils n'ont plus d'inscription sociale. Peut-être que pour certains, l'école n'a pas été... un vecteur qui les a aidés. Donc, ben, comment raccrocher un peu les wagons ? Et dans ce que j'ai compris à travers Deluxe tout à l'heure, à travers Nicolas et Yannis, mais aussi à travers les propos des deux référents de parcours, Sadra et Brahim, c'est quand même comment cet accompagnement dans le cadre du PRIJ permet une forme d'inscription sociale. Et je trouve qu'il y a, il y a quand même de la réussite à la clé. Et puis j'ai envie de dire, il y a aussi des perspectives d'avenir. Et je passe la parole. Merci encore à vous qui aviez participé. Merci à vous, Madame Mekaz, d'avoir été avec nous cet après-midi. Et puis, je passe la parole à Elisabeth Medina, donc la directrice de la RIF-CMEA et animatrice également des groupes d'analyse de la pratique avec moi-même.
Merci Warda, merci à tous et toutes pour vos témoignages. Moi, j'ai envie de réagir un peu par rapport à tout ce qui a été dit à la fois par Mathieu Piton en début d'émission, là, mais aussi par rapport à ce que vous venez de dire les uns et les autres. Plusieurs choses, moi, que je retiens. La première, c'est que la question de l'accompagnement dans le cadre du plan régional insertion jeunesse, c'est bien évidemment de pouvoir permettre à des jeunes qui, à un moment donné, pour X raisons dans leur parcours, sont dans le doute, sont dans l'hésitation, ne savent pas, se questionnent, de pouvoir effectivement établir d'abord une relation humaine avec les personnes qui sont autour d'eux, et en l'occurrence, les référents de parcours et référentes de parcours. Donc d'abord une relation, une rencontre. C'est d'abord de cela dont il est question. Et à partir de là, de pouvoir effectivement faire un bout de chemin ensemble. Faire un bout de chemin parce qu'on sent qu'on peut avoir confiance. On peut avoir confiance dans la personne qui nous accueille, qu'elle nous regarde dans ce que l'on est, c'est-à-dire quelqu'un qui a envie de se construire, d'avancer, de prendre place dans la société, et qu'à partir de là, bah, ça donne confiance. Ça donne confiance et ça permet aussi de se dire que finalement, on va pouvoir petit à petit, à travers cette relation, avancer, peut-être résoudre effectivement des difficultés. Et j'ai trouvé vraiment très intéressant ce que vous avez pu dire, parce que finalement, ce qui ressortait dans vos témoignages, c'est que pour certains, il n'y avait pas que la question de la formation, il y avait aussi comment se démêler dans un ensemble de difficultés dans lesquelles bah, vous étiez à ce moment-là, au commencement de votre rencontre, peut-être noyé, peut-être découragé, peut-être perdu. Et qu'effectivement, bah, on a besoin, chacun de nous, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est construit. Moi, souvent, je dis mais que c'est important de se rappeler aussi comment chacun de nous s'est construit, comment on est devenu ce que l'on est. Et c'est souvent à travers des expériences, à travers des rencontres, à travers des personnes qui ont cru en nous, qui nous ont fait confiance, qui nous ont aidés à trouver en nous les ressources. Et ce que vous disiez tout à l'heure de la relation avec Brahim, c'est ça, c'est à un moment donné, Brahim, c'est pas celui qui va vous amener les solutions, mais c'est celui qui effectivement, avec vous, chemine, recherche les solutions, vous permet de vous saisir d'un certain nombre de possibilités que vous ne connaissiez pas forcément. Et dans la vie, on a besoin effectivement de pouvoir trouver des points d'appui. Et j'aurais envie de finir en faisant clin d'œil, on peut dire ça comme ça, à quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans ses travaux, c'est Joëlle Bordet. Parce que Joëlle Bordet, dans ses travaux, elle parle notamment de ce qu'elle appelle ça des tuteurs de développement. C'est comment, à un moment donné, dans la vie, on a aussi des personnes auprès desquelles on peut s'appuyer et qui nous aident à nous développer. D'ailleurs, j'ai plutôt envie de dire que dans vos trois histoires, ce dont on se rend compte, c'est que vous aviez besoin de trouver à un moment donné des points d'appui pour pouvoir vous développer, cheminer, réussir, surmonter certains obstacles. Plus que de la réinsertion, c'était effectivement comment faire face à un moment donné des difficultés. Et qui était comme ça sur votre route. Et puis, vous avez réussi à le faire. Et je trouve que c'est vraiment intéressant. Et ça montre à quel point, finalement, dans cet accueil au départ inconditionnel, où il n'y avait pas de conditions qui étaient posées, c'est d'abord une rencontre humaine. Et à partir de là, parce qu'il y a eu cette rencontre, parce qu'il y a eu cette écoute, cette disponibilité, et bien, vous avez pu trouver en vous les ressources pour pouvoir avancer. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Et merci pour vos témoignages aux uns et aux autres. Et je pense que c'est aussi important de se dire que finalement, c'est un travail d'équipe aussi. C'est-à-dire que Et dans l'équipe, vous en faites partie intégrante, comme vous, madame, d'ailleurs, en tant que maman, puisqu'on a bien vu qu'il y a eu aussi des échanges, des allers-retours. Donc, vous étiez aussi présente. Et parfois, on sait très bien qu'en tant que parent, on peut être à un moment donné dépassé, démuni, et ça arrive. Et qu'on a besoin aussi d'avoir dans son environnement des personnes qui vont être aussi des points d'appui. Et que de ce point de vue-là, ça a été aussi intéressant. Parce que parfois, le message du parent, il n'est plus du tout audible. Et donc, c'est intéressant quand ce sont des personnes qui sont à une autre place, qui peuvent se permettre de dire des choses. Elles ne sont peut-être pas reçues de la même façon, parce qu'il n'y a pas la même émotion. Et que du coup, ça permet aussi de faire un bout de chemin. Et que je trouve que c'est intéressant dans ce que vous disiez, parce qu'à un moment donné, vous avez passé la main, mais sans être loin, toujours en restant présente. Et c'est pour ça que je parle d'un travail d'équipe. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment... merci beaucoup pour tous ces témoignages. Merci aussi à l'équipe qui nous accompagne à la technique, puisque là, comme je l'ai dit, on renouait avec la web radio et du coup, là, on est en direct, on n'est plus confiné, enfermé chez nous. Donc, parfois, il y a des micros qui bougent, parfois, mais bon, ça montre aussi que c'est vivant dans cet échange. Et enfin, je voulais vous dire qu'en termes de perspective, parce que c'est aussi ça, donc si vous avez envie, vous, de votre côté, de témoigner, d'apporter aussi des contributions, on peut complètement continuer ce chemin en 2023 avec vous. On est tout à fait OK pour renouer avec d'autres web radios. Et vous dire aussi que les CMEA Île-de-France en 2023 continueront d'accompagner dans le cadre de groupes d'analyse de pratique, qui aura la possibilité aussi pour de nouveaux référents qui souhaiteraient rejoindre des groupes de le faire. On aura un nouveau groupe qui ouvrira donc en 2023. Donc vous êtes bien évidemment toutes et tous les bienvenus en 2023 pour rejoindre donc ces groupes d'analyse. Je remercie donc l'ensemble des participants, Mathieu Piton aussi pour son témoignage. Et je vous dis à très bientôt.
Parlons Prige, parlons accompagnement en Île-de-France. Thank you.